Les rendez-vous M28. Racontons demain, prendre acte, relier et se projeter avec le vivant. Ce cycle de rencontres mensuelles s'inscrit dans le cadre de l'événement 25, les chemins du vivant portés par M28 Terre de Culture. Ces rendez-vous visent à relier les professionnels et publics associés à la démarche et à partager des réflexions autour de thématiques communes. Un lundi par mois, deux intervenants, artistes, chercheurs ou porteurs de projets, sont invités à dialoguer autour de problématiques thématisées à l'Hôtel d'Aurès à Montpellier, cœur battant de Montpellier 2028. Les rendez-vous M28, un projet réalisé en coproduction avec les radios du CRLO.
Bonjour à tous et bienvenue à la première édition des rendez-vous M28 à l'Hôtel d'Aurès. Ces rendez-vous sont des rendez-vous qui vont désormais devenir mensuels et l'objectif c'est tous les premiers lundis du mois ou équivalents, mais nous serons amenés à vous donner les dates si vous le souhaitez. Nous serons amenés à travailler sur notre manière de raconter demain. C'est un cycle de rencontres qui s'inscrit évidemment dans le cadre de l'événement 25 Les Chemins du Vivant, dont Nicolas Dupour à mes côtés assure la programmation et pour lequel nous travaillons ardemment sur un certain nombre de sujets et pour lesquels nous souhaitons relier les professionnels et les publics associés, relier la démarche M28 et partager des réflexions autour des thématiques que nous portons d'ores et déjà depuis 2 ou 3 ans. Donc un lundi par mois, deux intervenants, et je laisserai Nicolas présenter ceux de ce jour, vont dialoguer ensemble. L'objectif, c'est qu'ils soient quelque part autonomes, qu'ils puissent échanger devant vous, devant nous, et que nous puissions collectivement ensuite échanger avec eux dans une espèce de dialogue et de ping-pong que nous allons expérimenter ensemble ce soir. Je me permets de vous dire que cet échange est enregistré, sachez-le, par Radio Clapas, c'est que il sera diffusé dans les semaines à venir. Je n'ai pas la date. Si vous l'avez, vous pouvez la donner. Lundi prochain. Et vous retrouverez évidemment sur tous les réseaux sociaux et sur notre site internet l'enregistrement de cette séquence. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition le 13 janvier prochain. Et l'idée, c'est que nous ne soyons pas bavards et que nous laissions nos intervenants parler. Donc je laisse Nicolas présenter nos deux intervenants du jour.
Bonsoir. Alors, bienvenue à Marie Boissard et Pascal Ferren. Marie Boissard nous a accompagnés depuis bientôt 3 ans avec l'agence Les Sismos. Son métier, c'est designer. Et toute la question que nous allons aborder ce soir, finalement, c'est aussi au cœur des pratiques de M28. C'est comment, à partir d'une grande communauté d'acteurs, on arrive à dégager des enjeux communs, comment on arrive à se projeter non seulement dans ce qu'est la programmation M28, mais aussi à intégrer les démarches des uns et des autres pour réellement co-construire. Je pense que l'idée de la co-construction est un peu au cœur des préoccupations du Sismo. En tout cas, Marie Boissard va nous en parler ce soir. Pascal Ferren, il est auteur, philosophe, urbaniste, et il est notamment l'un des artistes qu'on va avoir la chance de retrouver tout au long de l'année 2025, notamment du côté du quartier Mausson et en plus particulier le long de cette rivière. Les rivières, il les connaît bien. Il a notamment participé à un projet qui s'appelle les Parlements de la Loire et qui, dans la lignée des pensées notamment de Philippe Descola, s'interroge sur la question du vivant, notamment des exemples qui nous viennent d'Amazonie sur comment faire parler les fleuves. Donc, faire parler le vivant, c'est finalement replacer l'humain dans un écosystème qui n'est pas simplement celui de l'humanité, mais de bel et bien intégrer une dimension beaucoup plus large et de voir que toutes les interactions, quand on co-construit, est-ce qu'il est possible de co-construire aussi avec des fleuves. C'est le sujet de ce soir.
Bah je me lance. Eh bien, bonjour à tous et merci beaucoup à l'équipe M28 pour son invitation ce soir. Je suis ravie de voir quelques têtes un peu familières ce soir. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, je me présente à vous ce soir en tant que designer, mais j'ai pas toujours été designer, mea culpa, hein, direct. Moi, je viens plutôt à la base des sciences de l'information et de la communication et plus largement des sciences humaines et sociales. Et j'ai opéré un petit virage professionnel il y a 4 ans de cela pour aller au plus proche du design. Et ça fait maintenant 3 ans que je suis donc designer au sein de l'agence Les Sismos. Alors c'est toujours un exercice un peu périlleux de raconter son métier en 2 minutes, mais je vais essayer de le faire de manière assez simpliste et pas trop réductrice. Du coup, je dirais que très simplement et très humblement, mon travail, ça consiste à concevoir et à imaginer des solutions pour améliorer le quotidien des gens. Dit comme ça, c'est plutôt simple. Ces solutions, elles sont évidemment de différentes natures. On a la chance chez les Sismos d'avoir des designers et des architectes aussi, d'ailleurs, qui viennent de pratiques d'expertises très variées. Pour vous donner 2 ou 3 exemples, on peut, par exemple, chez les Sismos, accompagner le réaménagement d'un espace d'accueil pour le rendre plus confortable, plus inclusif, plus accueillant. C'est notamment, moi, ce que j'ai fait là, il y a quelques mois, sur des structures d'hébergement d'urgence. Mais ça peut être aussi la création, par exemple, d'un service pour rendre plus accessible une démarche administrative, comme c'est le cas dans certains projets qu'on mène sur des politiques publiques. Et puis, ça peut être, encore une fois, la création de dispositifs de médiation pour faciliter, par exemple, le dialogue ou la collaboration entre différents acteurs. Et ça, c'est notamment ce que j'ai pu faire avec l'équipe M28, justement, tout au long de la candidature et un peu au-delà. Donc, des approches très variées, des terrains très divers. On travaille dans la santé, dans la culture, dans l'éducation, dans l'industrie, etc., etc. Et du coup, c'est pas tant justement ces problématiques ou ces terrains qui caractérisent un peu notre travail, mais chez Sismos, c'est plutôt notre approche de la conception, puisqu'on est très nourri et très inspiré par ce qu'on appelle les éthiques du care. Donc du soin en bon français. Je ne vais pas m'étendre sur les éthiques du care parce que honnêtement, premièrement, je pense que ça nécessiterait un cours de 2 heures et deuxièmement, je ne suis pas sûre que je le ferai de manière très rigoureuse. Mais pour le dire très simplement, en fait, il s'agit pour nous, dans nos projets, d'œuvrer à la reconnaissance et à la prise en compte des fragilités, qu'elles soient individuelles, sociales, ou environnementale. Très concrètement, c'est les identifier dans le projet, en faire des terrains de conception pour pouvoir peut-être les repotentialiser finalement, enfin en faire en tout cas des opportunités créatives et en tout cas les valoriser. Donc voilà, je vais peut-être pas trop m'étendre plus que ça sur l'approche parce que je pense que on aura l'occasion de discuter un peu projet tout à l'heure, mais peut-être pour dire 3 mots sur la thématique, la fiction au service du public et pourquoi je suis là aujourd'hui et pourquoi je la relie au design. Je dirais qu'en effet, comme le disait Nicolas, pour moi la fiction c'est vraiment au cœur de mon travail. Alors encore faut-il, et on en discutera même si on ne la définira pas, on s'est dit ça tout à l'heure, définir quand même ce qu'on entend par fiction, mais en tout cas moi vous dire que je le définis pas forcément comme un objet ou la caractéristique d'un objet comme pourrait l'être par exemple l'œuvre littéraire, mais plutôt comme une compétence ou une capacité qu'on exerce en tant que designer, et ça sur vraiment toutes les phases de notre méthodologie, que ça soit dans nos terrains d'enquête, dans la manière dont on va restituer ces terrains d'enquête. On travaille par exemple avec des personas, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec ces outils, mais qui sont des sortes de représentations je ne vais jamais arriver à le dire, archétypales, merci beaucoup. et qui nous permettent voilà, de mettre en scène un peu les publics et leurs caractéristiques et leurs freins et leur contexte au travers du projet. Ça peut être aussi dans les phases de co-création, quand on va, par exemple, créer avec les différents publics des scénarios d'usage où on vient imaginer ce que vraiment un scénario potentiel, un scénario alternatif, et se dire voilà comment ça fonctionnerait si on mettait les choses en place comme ça et quels seraient les impacts potentiels. Et puis enfin, c'est quelque chose qu'on va aussi quelque part utiliser, parce que quelque chose qui est au cœur, nous, de notre approche, c'est l'expérimentation. Et qu'est-ce qu'on fait quand on expérimente? Concrètement, on crée des dispositifs de tests qui sont rien de plus que des représentations fictionnelles de l'expérience qu'on voudrait voir advenir. Et là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir à la fois tester la désirabilité de ces solutions-là, mais ça peut être aussi, et dans une perspective justement de care, de montrer qu'au-delà de répondre à des besoins immédiats, la solution qu'on a imaginée, elle peut aussi adresser un impact qui soit positif et plus durable, qui peut être, par exemple, la création d'associations ou de synergies entre les acteurs qui sont impactés par notre solution, etc. Donc voilà, c'est vraiment au cœur, mais je pense que je vais m'arrêter là pour laisser la parole à Pascal.
Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je m'appelle Pascal. J'ai fait des études de philo et j'ai travaillé plutôt dans les secteurs de l'urbanisme. On va dire que mon métier à moi n'est pas facile à dire non plus. D'ailleurs, je vous ai amené, j'en parle tout de suite, mais j'ai amené ce petit truc là, si certains veulent le voir, on en a plusieurs en plus. C'est la DGLN, c'est le ministère de la Transition qui vient de publier ce truc là qui s'appelle Oser la postdisciplinarité, qui a notamment été porté par un artiste qui s'appelle Stéphane Chanclan, duquel je m'inspire beaucoup et qui inspire beaucoup certaines de nos pratiques et qui tente de dire ces métiers que sont les nôtres, en tout cas le mien, parce que moi j'ai plus de mal à me dire designer, qui sont quelque part entre l'artistique, l'architecture, l'urbanisme, l'écologie, qui sont des pratiques un peu médianes ou séquentes, on peut leur donner plusieurs noms, mais voilà. Mais en tout cas, mon métier à moi, c'est pas, je le dirais, moi c'est pas exactement la même chose que toi, c'est pas tant d'imaginer des espaces, comment tu as dit, t'as pas dit confortable, t'as dit
inclusif,
c'est d'imaginer c'est comment on peut organiser des territoires, imaginer l'aménagement des espaces de vie, mais avec ceux ou par ceux qui les vivent, et y compris ceux qui les vivent et qui ne sont pas des êtres humains. Donc c'est plutôt ça mon métier, donc ça va être d'imaginer, de concevoir des espaces publics, de concevoir des organisations urbaines, de concevoir des bâtiments, de concevoir des politiques, de concevoir des plans de gestion. En ce moment, je fais un plan de gestion d'un marais. Voilà, ça peut être des sujets assez différents, mais par contre, dans mon métier, je vais toujours avoir une même méthodologie, on va dire. C'est plutôt ça qui va nous rassembler, et qui d'ailleurs est le sujet de ce jour, qui est celle de faire du dialogue public. Donc je suis, on peut dire, une autre manière de le dire, c'est de dire que je suis un spécialiste du dialogue public, avec différentes casquettes, mais voilà. Et dans ce cadre de comment on fait le dialogue public, moi j'utilise beaucoup l'outil fictionnel, je vais y revenir, l'outil de la fiction dans mon travail. Une autre manière de vous dire tout ça, très simplement pour finir de me présenter, c'est de vous dire aussi que j'ai un peu deux casquettes, en fait, sur lesquelles je jongle un peu souvent. Alors très concrètement, je travaille dans un bureau d'études, qui s'appelle l'agence Camille Alfada, qui fait de la concertation, de la programmation spatiale. On est quatre, on répond à des marchés publics, voilà, tout ce qui est de plus classique. Enfin, si c'est classique, mais en tout cas, on fait ça. Et à côté de ça, j'ai une activité d'expérimentation, de recherche, d'artiste. On la nomme un peu différemment, un peu comme on veut, qui est une activité que je qualifierais volontiers de plus inventive, pour utiliser des mots simples, de plus imaginative, où là, je vais encore plus aller utiliser la fiction. Donc en fait, moi, ce qui me paraît intéressant dans la question de la fiction, pour y aller directement, et à quoi elle peut servir, hein, la fiction au service du public, à quoi elle peut servir l'intérêt public, ou l'intérêt du public, ou l'intérêt des publics, ou l'intérêt public, sont des choses différentes d'ailleurs. Moi, je la vois vraiment comme un outil, c'est-à-dire que moi, je n'utilise pas la fiction comme va l'utiliser un écrivain, justement, qui va, lui, utiliser une fiction en tant que telle. Il faut trouver une fiction, ça y est. Quand Alain Damasio écrit Les Furtifs, il écrit une fiction qui a une valeur en tant que telle, c'est-à-dire qui donne à penser en tant que telle et qui vise à planter des petites graines, on va dire, dans les cerveaux et à vous faire imaginer des choses différentes, potentielles, etc. Nous, et je crois qu'on le partage d'ailleurs, on va plutôt utiliser la fiction comme un outil de travail, comme un outil de dialogue. Voilà. Souvent, je dis, pour plaisanter un petit peu, mais je dis que j'écris des petites fictions, c'est-à-dire, ou des fictions prétextuelles. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est pas tant la fiction, mais c'est à quoi elle sert ou c'est ce qu'elle permet. Souvent, une autre manière de le dire, c'est, on le dit souvent en allemand, je sais pas pourquoi, on dit als ob, on fait comme si. On dirait que, vous savez, les enfants quand ils jouent, on dirait que t'es le papa, on dirait que je suis le papa ou je suis la maman, on dirait que machin. Et en fait, ce qui est intéressant dans le on dirait que, c'est pas tant est-ce que vraiment on dirait que t'es le papa et je suis la maman, parce que je sais pas, les enfants jouent encore à ça, mais c'est plutôt si on dirait que t'es le papa et je suis la maman, bah qu'est-ce qu'on ferait, comment on penserait, comment on se déplacerait, tout ça. Donc c'est vraiment cette utilisation très prétextuelle de la fiction. Je peux vous donner quelques exemples. Quel exemple je vais donner? On a travaillé sur l'aise à Montpellier avec Bipolar, Mathieu qui est ici, Astrée qui sont ici. On travaillait sur la question des attachements au fleuve. Donc, comment on peut faire bouger les organisations, les administrations de la nature et particulièrement d'un fleuve dans une métropole comme Montpellier, par exemple, du fleuve l'Aise. Ce qui nous intéressait, c'était ça, c'était de partir un petit peu de l'attachement des gens au fleuve pour voir comment, à partir de ça, on pouvait construire des évolutions de politique publique. Mais on l'a fait en se disant, on va inventer une petite fiction. On dirait que la métropole de Montpellier a reçu une lettre dans laquelle le fleuve menace de se mettre en grève. Et donc on dirait qu'il faut aller négocier avec le fleuve. Et donc comment on négocie avec un fleuve? Donc voilà. Et donc là, à partir de cette petite fiction, on crée un comité de négociation, on va chercher des riverains, on se demande comment on négocie, on se demande si on doit négocier, qu'est-ce qu'on peut lâcher, qu'est-ce qu'on doit donner, qu'est-ce que ça implique de négocier, etc. Comment on parle avec le fleuve? Est-ce qu'il faut le faire parler, comme tu as dit, ou est-ce qu'il faut simplement l'écouter? Enfin, voilà, ça pose tout plein de questions qui sont intéressantes dans la fiction. Qui peut être beaucoup plus petit, hein. Tu parlais des personas, t'as raison, c'est une très bonne manière. Un persona, qu'est-ce que c'est, hein? C'est un personnage inventé, c'est un personnage fictionnel, tout simplement. Donc c'est ça, la fiction, c'est d'inventer quelque chose, ou d'imaginer quelque chose, pour du réel, ou pour revenir sur le réel, quoi. Et la dernière chose que je peux vous raconter en introduction, c'est que moi, ces dernières années, j'ai eu tendance à tirer encore plus fort les fictions. En fait, j'ai fait beaucoup dans ma vie, moi, des espèces de fictions un peu... bizarroïdes, on sait pas vraiment si c'est des fictions, tout ça. J'ai parfois regretté qu'elles soient trop fortes. Je sais pas si je devrais le dire, mais les auditions du Parlement de Loire, que je connais bien, parce que j'ai contribué à les créer avec Camille de Toledo, c'est une fiction qui parfois me gêne dans la manière dont elle est trop prise au sérieux. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'elle est très intéressante. Moi, je pense que c'est absolument hyper intéressant d'imaginer qu'il puisse y avoir un Parlement interspécifique de la Loire, mais alors déjà on a oublié le interspécifique, on a parlé de Parlement de Loire, mais surtout c'est aussi important de comprendre qu'il n'existe pas encore, c'est-à-dire faut se méfier aussi de la fiction, c'est-à-dire faut faire gaffe quand même, c'est-à-dire ce serait très très bien qu'il y ait un Parlement de Loire interspécifique, mais en l'occurrence il n'y en a pas, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est une fiction. Et du coup, j'essaie de faire très attention à ça, moi, dans mon travail aujourd'hui, c'est-à-dire à construire des fictions qui se savent fiction. C'est-à-dire, quand on construit un persona, il faut que ce soit très clair que c'est un persona. C'est-à-dire, sinon, ça marche mal, en fait. Moi, je trouve, en tout cas, dans moi, l'utilisation que j'en ai. Hein. Et donc là, dernièrement, comme vous l'avez compris, je travaille beaucoup sur des questions d'écologie. Et donc, je me suis demandé, avec quelques-uns de mes amis, notamment l'agence Bipolar, d'ailleurs, avec qui je travaille beaucoup, ce serait quoi un service public de l'écologie relationnelle? C'est-à-dire que ce serait quoi un service public qui serait plus dans une écologie qui est celle qui nous provient des années 70, dans laquelle on a encore une écologie de l'heuristique, de l'explication, de la pédagogie, l'heuristique des gestes, l'écologie des gestes, qu'on appelle parfois les petits gestes, l'écologie qui pousse à agir, l'écologie didactique, l'écologie qui fait que quand vous achetez une maison aujourd'hui, on vous file un document qui s'appelle le DICRIM pour vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une inondation. Et on dit, vous avez qu'à lire le DICRIM et vous serez sensibilisé aux inondations. Donc ça, c'est l'écologie un peu dans laquelle on est. Ce serait quoi une autre écologie qui serait une écologie plus relationnelle? On s'intéresserait plutôt à la relation que vous avez à la nature. Bon, il y a plein d'écrits là-dessus, très théoriques, de grands penseurs, de grands philosophes et tout plein d'autres gens. Mais moi, je ne suis pas de ces gens-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de les lire, de m'inspirer de ce qu'ils font et de me dire, OK, mais ça dirait quoi en vrai? Et donc, j'ai inventé une fiction qui est un faux service public qui s'appelle la mission en relation. Et donc, je travaille ce service public fictionnel, mais tout, c'est-à-dire, ce serait quoi son directeur, sa direction, comment il serait dirigé, ce serait quoi ses programmes d'action, quel type d'appel à projet il pourrait publier, quelle langue il utiliserait, quelles images il publierait, etc., etc. Ce serait quoi les CV qui travailleraient dans la mission relation, etc., etc. Donc là, c'est des fictions un peu plus fortes encore. C'est-à-dire, c'est là où j'estime que je suis plus dans un rôle d'artiste, en l'occurrence, où vraiment je vais aller jusqu'à inventer complètement un monde, mais qui a toujours ce même rôle. Et je m'arrête là, mais c'est-à-dire où j'essaie toujours de faire gaffe à ce que ce soit bien clair que la fiction, dans ce cadre-là, c'est ce qui pourrait exister. Mais c'est pas ce qui existe. ou c'est ce qui, ou c'est, voilà. Camille de Toledo, il a ce très joli mot, il dit que c'est des, faire des paratopies. Ce n'est pas des utopies, c'est des paratopies. C'est ce qui pourrait être, qui est juste à côté, qui est potentiel. Il appelle ça aussi les institutions potentielles. J'aime beaucoup aussi ce vocable dans un merveilleux livre que je vous conseille, qui s'appelle « Les potentiels du temps », qu'il a écrit avec Alyosha Imov et Kantuta Kiros. Là, et ils disent ce truc-là. Ils disent qu'il faut essayer de réfléchir à ce qui est en potentialité et pas tant ce qui devrait être demain, dans un futur, ou ce qu'on va faire comme si ça existait. Non, ce n'est pas exactement ça. C'est ce qui pourrait être.
Vas-y. J'enchaîne peut-être, mais j'allais dire que je partage cette attention. Et c'est vrai que quand on a un peu discuté avec Pascal, quand on a préparé quand même un petit peu cet échange, on s'est tout de suite dit, OK, évidemment, il y a la question de pourquoi la fiction, pourquoi on fictionne. Moi, j'aime bien ce terme de fictionner, en faire un verbe. Pourquoi le design fictionne ? Très clairement, on va peut-être pas revenir avec vous. Je pense que si vous êtes présent ce soir, c'est que vous êtes au courant de pourquoi on a besoin de la fiction. On est quand même dans ce que beaucoup appellent une panne des imaginaires. Et très clairement, voilà, nous, en tant que designer, on a besoin de réouvrir ces imaginaires-là, aller chercher des imaginaires qui sont alternatif et je dirais même dans certains cas un peu en marge. Alors on va pas non plus forcément aller aux marges des marges, mais on essaye d'aller chercher là-dedans des choses intéressantes. Et en tout cas, je partage ce que disait Pascal sur le fait que ça doit rester un outil. Après, ça devient, en fait, ça a tendance selon les pratiques à être plus ou moins un outil parce qu'on se rapproche parfois en effet de carrément de l'œuvre fictionnelle. Il y a une autre pratique qui tend un peu à s'institutionnaliser. Alors bon, ça c'est des termes, hein, mais on parle maintenant de design fiction. Ça existe depuis un moment, mais on entend un petit peu plus parler aujourd'hui. Et ça ressemble un peu à ce que tu fais aussi et ce que tu viens de nous présenter. Nous, par exemple, on a fait ça très récemment avec le ministère de l'économie et des finances. Bercy, sympa d'imaginer le futur du travail à Bercy. Donc c'est eux qui sont venus nous chercher pour établir des visions un peu prospectives de ce que ça pourrait donner le contexte de travail des agents. Et du coup, on est aussi allé chercher ces outils du design fiction qui sont concrètement de matérialiser par le design quels pourraient être ces futurs possibles et quelles pourraient être les conditions d'émergence. En tout cas se questionner sur ces conditions d'émergence dans le présent, et ça donne des choses parfois assez chouettes, mais il y a une responsabilité quand même qu'on a à utiliser ces outils-là, parce que quand on s'en parlait, on se disait la fiction c'est aussi un peu parfois très utilisé par le marketing notamment, des domaines aussi plus communicationnels. Donc ça peut être aussi utilisé à des fins comme ça. Nous, l'idée, c'est vraiment, comme tu disais, c'est prétextuel. Et l'idée, c'est vraiment que ça se base sur le réel. Quand on fait une design fiction pour Bercy, on n'invente pas comme ça, on ne sort pas notre belle plume d'écrivain de fiction pour inventer quelque chose. En fait, on travaille à partir du réel, à partir de l'historique. Nous, ce qu'on est allé faire, c'est des entretiens et des ateliers avec notamment des retraités de Bercy, pour qu'ils puissent nous raconter un peu depuis les années 50 comment ça se passait. Et on a appris tout plein de choses assez marrantes, assez flippantes aussi parfois aussi. Donc voilà, donc on travaille à partir du réel et on produit du réel. Donc c'est vraiment l'idée. Mais justement, moi, c'est un peu la question que je voulais nous poser. C'était un peu justement de... Quels sont les risques en fait de ce type de pratique et quelles sont les attentions du coup à avoir par rapport à ces pratiques ? Et je ne sais pas si tu en as peut-être quelques-unes à nous transmettre.
Oui, je te partage. On se disait quand on discutait avant, on disait qu'il y avait une éthique de la fiction, enfin à avoir. C'est marrant quand tu le parlais, je repensais à, je vais faire des remarques de philosophe, mais je pensais à l'esthétique nietzschéenne où Nietzsche dit. Vous savez, il a une pensée très polémique, très violente, et donc il dit tout est mensonge, on ment en permanence, le monde il est construit par des narrations mensongères, en fait, c'est ça qui fait le monde. Mais il y en a une qui est meilleure que les autres, c'est l'art, parce que l'art, lui, c'est un mensonge qui ne se prend pas pour la vérité. Et donc c'est assez beau d'imaginer que c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, y a une honnêteté, comme tu dis. C'est-à-dire, il y a un rapport au réel, en fait, dans la fiction fictionnelle, dans la fiction qui se dit fiction, qui est assez intéressante. Mais le risque, moi, je le vois comme... comment vous dire ça ? Je peux vous partager des angoisses que j'ai eues, moi, pendant le Covid, pendant les premiers confinements, là, en 2020. Donc moi je sortais, on venait de lancer les auditions du Parlement de Loire qu'on avait travaillé pendant quand même, on a commencé à travailler ça en 2017, 10 décembre 2017. On a commencé à s'intéresser à cette question de, c'est ce jour-là qu'on a eu cette idée de reprendre le Parlement des choses de la Tour et tout. Enfin bah, vous voyez certainement un peu d'où ça vient toutes ces histoires-là, en se disant bah tiens on pourrait faire une commission d'audition tout ça machin. Voilà. Et pourquoi je vous raconte ça? Ah oui, donc on était là-dedans, et donc nous on était à fond. Moi je suis urbaniste, donc moi j'étais sur ouais, comment ça pourrait changer le comité de bassin, ce serait quoi un comité de bassin? Parce qu'en fait, je vais le dire autrement, excusez-moi. Parce qu'en fait, par exemple, sur les fleuves, il y a une gouvernance existante en France autour des fleuves, qui est d'ailleurs plutôt exemplaire. C'est-à-dire, moi je trouve que c'est une des meilleures gouvernances de la nature qu'on ait jamais créée. Il y a une des administrations qui sont à l'échelle des écosystèmes. Il y a tout plein de choses qui sont hyper intéressantes. Il y a les commissions locales de l'eau qui créent du dialogue public. Voilà. C'est loin d'être parfait, je dis pas du tout que c'est parfait, j'ai juste que c'est loin aussi d'être catastrophique. Et moi j'ai un beau-père qui vient du Chili et qui me rappelle souvent qu'il faut pas trop vite cracher sur la démocratie française et sur nos institutions, et qu'il faut faire attention quand même, c'est-à-dire attention à ce qu'on a, quoi. Et donc nous on était vraiment là-dedans, enfin, en tout cas moi à cette époque-là, après 2018-2019, j'étais vraiment sur ouais, comment on va modifier ce qu'on a, comment on utilise la fiction de « on dirait qu'il y aurait un Parlement de Loire plus tard » pour venir modifier le comité de bassin, etc., les agences de l'eau, le fonctionnement de l'agence de l'eau, etc., pour qu'il y ait des représentations plus larges dans les comités d'usagers, etc., etc. Et moi, c'était ça ma réflexion. Et en fait, pendant le Covid, il y a eu cette espèce de, je sais pas comment dire moi, de saturation du podcast, là, je suis désolé, où d'un seul coup, tout le monde s'est mis à écouter des podcasts. D'un coup, je rencontrais des gens qui avaient entendu un podcast sur le Parlement de Loire, qui m'expliquaient ce que c'était. Tout le monde lisait Baptiste Morisot, donc c'était super. Donc, moi, je trouve ça génial, vraiment, très sincèrement. Mais en même temps, ça décollait complètement, et je rencontrais tout un tas de gens qui en fait, j'avais l'impression, je vais vous dire ça comme ça, mais qui se rassuraient sur le fait que comme il y a des podcasts et il y a des livres sur ces questions-là, on est en train d'avancer. Vous savez, c'est le fameux l'ère du temps est en train d'avancer, il y a un nouveau paradigme. Cette phrase est terrible. On décrète des paradigmes, c'est quand même... On décrète des nouvelles ontologies, il faudrait une nouvelle ontologie. Ça c'est bien. On va dire qu'il n'y aura qu'à changer la manière dont l'être est l'être. Non, mais vous voyez, il y a quelque chose de presque comique là-dedans. Enfin, en tout cas, moi, qui me fait un peu rire, mais qui m'angoisse aussi énormément. C'est-à-dire, faut faire attention aux discours et aux discours qu'on se raconte, particulièrement dans une société qui est baignée de discours, où on aime beaucoup ce genre de situation, ce genre de scène de discussion, tout ça. On aime bien les gourous, on aime bien tout ça, quoi. Donc, faut faire attention, quoi. Qu'est-ce qu'on a pour de vrai? Et par exemple, je finis cet exemple-là et j'arrête là, parce que pour exemplifier ce risque. C'est moi, par exemple, j'ai des débats assez. Je vais pas vous raconter ma vie, mais je viens plutôt d'un. Je vous ai dit que mon père était chilien, donc je viens plutôt de monde extrêmement militant, extrêmement politisé. J'ai été dans les casseurs de pub, la décroissance. Je viens plutôt du militantisme, et du coup, je dialogue toujours beaucoup avec des militants assez radicaux, qui nous reprochent beaucoup de pas être assez radicaux dans nos optiques et tout, mais qui moi me gênent beaucoup dans les cibles qu'ils fixent. C'est-à-dire, est-ce que par exemple sur les débats sur l'eau aujourd'hui, il y a énormément de débats sur la pratique des agences de l'eau. Or, quand vous critiquez aujourd'hui le travail des agences de l'eau, vous faites exactement la même chose que ce que fait le gouvernement en critiquant le fonctionnement des agences de l'eau. Et donc, vous mettez en risque, en fait, les agences de l'eau. Donc, peut-être qu'elles vont disparaître. Je sais pas. C'est apparemment, ça se questionne. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il y aura après? C'est-à-dire, est-on bien sûr qu'après les agences de l'eau, il y aura quelque chose de mieux que l'agence de l'eau? Je ne sais pas. Et pour moi, c'est la question qu'on devrait se poser. C'est-à-dire, la question, c'est pas, tu vois. Et du coup, je me méfie de ces fictions. Je le redis, je fais une synthèse de ce que je viens de dire. Je sais pas si c'est très clair, mais je me méfie de ces fictions qui nous mène à tellement croire à la fiction qu'on attaque totalement le réel. Et que du coup, le réel devient inacceptable parce que la fiction est tellement belle. C'est tellement beau le monde que décrit Les Furtifs de Damasio, mais c'est une. Enfin, n'importe quel politologue vous dirait que c'est du délire, Les Furtifs de Damasio. C'est du. N'importe qui a fait un peu de militantisme politique, Les Furtifs de Damasio, ça s'arrête à la page 80. À la page 80, ils vont tous en prison et c'est fini. Donc en fait, c'est une fiction. C'est hyper intéressant que ce soit une fiction, mais attention, c'est une fiction.
Oui, complètement. Et puis c'est pour ça qu'on travaille
je
aussi.
T'ai pas lancé,
c'est... Non, mais il n'y a aucun problème. Je me relance toute seule. Non, mais c'est pour ça que voilà, on travaille. Je pense que c'est ton cas aussi. D'ailleurs, ça, c'est vrai, on n'en a pas parlé. Mais nous, quand on travaille sur ces fictions-là, on travaille pas tout seul, en fait. On travaille aussi avec. Alors, à la fois des spécialistes, comme on l'entend, hein, quand on travaille sur des espaces, on travaille avec des gens qui font de l'immobilier, du chauffage, de l'aération, etc. Mais c'est important aussi pour nous de dire qu'on travaille avec ces spécialistes-là et avec les usagers. Alors, on parle maintenant d'expertise d'usage. C'est un bien beau mot pour dire qu'en fait, on peut aussi faire confiance sur ces questions-là aux personnes qui vivent ou qui travaillent tout simplement dans ces espaces qu'on va venir créer. Donc voilà, donc on n'est pas tout seul pour écrire ces fictions. Je partage sur le fait aussi qu'il faut faire attention un peu à la suite de l'histoire. Et ça, en fait, pour le coup, c'est quelque chose où personnellement, moi, j'ai jamais trouvé exactement le bon équilibre et la bonne solution, parce que on a un peu un double enjeu quand même, c'est de créer des fictions qui soient suffisamment ouvertes, peut-être parfois un peu dérangeantes, un peu frictionnelles, comme on aime bien dire, pour que les usagers s'en saisissent, qu'ils puissent se l'approprier, en faire quelque chose. Et puis en même temps, on craint un peu aussi la mauvaise appropriation. On se dit, le projet va peut-être un peu nous échapper. Et puis par qui c'est approprié, par qui c'est utilisé. Donc voilà. Donc il y a bien des garde-fous à faire. Mais je vois le petit signe qui me dit que le temps passe. Et du coup, peut-être on voulait vous ouvrir la parole à vous aussi, si vous avez des questions ou peut-être des réactions à nous partager. Comme ça, ça vient une discussion un petit peu plus collective.
Ouais, alors on voit bien quand même ce que ça permet à la fiction. Ça permet de décoller du réel. Et ça, on comprend à peu près tout ça. Mais comment ça réatterrit, en fait ? Et qu'est-ce que ça change, en fait ? Concrètement, est-ce que ça arrive à atterrir ? C'est-à-dire quand vous êtes à Bercy, quand toi, t'es sur un barrage, etc. En fait, comment vous arrivez à revenir dans le réel à partir de ces éléments fictionnels-là ? Est-ce que ça aide vraiment ? Ou est-ce que ça reste juste un prétexte et une fiction qui est dans un coin, quoi ?
Alors peut-être nous, de notre côté, comme je le disais, il y a un peu différents usages de la fiction. Donc dans le cadre, on va dire, plus classique des projets, comme je le disais, c'est vraiment toi tu parlais de petites fictions, là on est sur des mini fictions. Du coup, on n'a pas vraiment de mal à réatterrir, par exemple, après un scénario d'usage, parce que on est bien au courant que ça, c'est un peu la situation imaginée. Après, on va la tester, on va voir que dans la réalité, non, c'est pas tout à fait ça, et qu'on s'adapte un petit peu, etc. Donc, en général, on n'a pas de mal à réatterrir. Dans le cas de Bercy, donc plutôt de ce qu'on appelle les design fiction, c'est une vraie question qui se pose. Bercy, c'est hyper intéressant, ça a ouvert plein de sujets. On a on nous interrogeait sur les conditions de travail au sein du ministère. En fait, ça atterrit sur des discussions qui sont bien plus grandes que ça, qui sont des questions d'organisation, de quel sera le métier de demain, etc. Ça a vraiment ouvert sur plein de champs. Ça a ouvert sur des projets aussi, puisque là ils sont en train de nous recontacter pour des suites potentielles et pour faire atterrir, comme vous le dites, le projet. Il n'empêche que c'est hyper dur de continuer les projets comme ça. Ça reste, c'est un peu un troisième ou quatrième, je ne sais pas, risque dont on parlait, c'est que ça devienne soit prédictif, soit prescripteur. Et en fait, nous, c'est pas l'objectif de dire ça va être comme ça. C'est de dire on fait un état des lieux, on se pose deux secondes et on regarde un peu quelles sont les problématiques qu'on pourrait venir adresser. Donc oui, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Après, moi, j'aime bien me dire quand même, peut-être pour me rassurer aussi, hein, peut-être, mais que dans tous les cas, même le fait de faire l'exercice de la fiction, ça change déjà quelque chose, parce que la personne qui l'a vécu, que ce soit la personne qui a participé à l'atelier de design fiction, le décideur, le commanditaire, etc., ils ont entendu des imaginaires qui sont forcément un peu différents, si en tout cas on les a bien designés, de ce qu'on entend d'habitude. Et je pense que ça change quelque chose dans l'affect de la personne, mais ça, évidemment, c'est hyper dur de mesurer l'atterrissage très concret quoi, en termes d'impact.
Oui, ouais, moi je crois qu'on peut pas vouloir ce qu'on n'est pas capable d'imaginer. Donc je pense que c'est ça le travail en fait, c'est que tu peux pas. C'est qu'est-ce qu'on est capable de vouloir. C'est-à-dire, je vais pas prendre d'exemple, ça va être glissant, mais. mais aujourd'hui on le voit bien, tu parlais d'une crise des imaginaires, je sais pas si c'est une crise des imaginaires, ouais, une crise des futurs possibles en tout cas, quoi. On voit bien une espèce de rétrécissement des futurs possibles, il n'y a plus de grands récits, une difficulté à se projeter et tout. Et donc la question c'est que ça fait aussi très mal vouloir. C'est-à-dire, quand on ne sait pas ce qui est possible, si tu crois qu'une chaise c'est forcément comme ça, tu ne peux vouloir que cette chaise en fait. Si tu ne sais pas qu'il y a d'autres chaises possibles et que tu n'imagines pas qu'il y ait d'autres possibilités de chaises en fait. Et donc il y a vraiment ce travail là, ouais, imaginer plus pour vouloir mieux, comme disait Jean-Philippe Pierron. C'est pour moi hyper important. Alors plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire par exemple que quand tu as imaginé un certain nombre de personas dans une situation qui pourrait vivre dans la ville de demain, par exemple, imagine qu'on imaginerait des personnages, des Montpelliérains qui vivraient tu vois, dans 20 ans ici et qui auraient des vies très différentes. Il y en aurait plusieurs, et ils auraient des vies différentes et tout. Ça peut te permettre de vouloir avoir ces vies et de pouvoir voilà, avoir un certain nombre d'actions comme ça. C'est comme ça pour moi qu'on retombe sur l'action. Ça, c'est la réponse un peu technique de philosophe, mais il y a une autre réponse qui est un peu celle vers laquelle tu allais, je crois, mais que moi, en tout cas, j'utilise beaucoup. C'est aussi, comment dire, c'est aussi remettre de la, j'allais dire, de l'huile dans le débat public, mais c'est aussi une fois que tu as fait, tu faisais référence joliment au procès du barrage, on a fait pour faire un règlement d'eau, là, dernièrement, j'ai fait, avec mon agence, on a fait un procès, on a fait le faux procès du barrage. Et en fait, ça a permis à un certain nombre d'acteurs de se reparler aussi, en fait. C'est-à-dire que dans le cadre de la fiction, on peut se parler, parce que c'est fictionnel, parce que c'est un autre endroit, parce que c'est extrêmement maîtrisé, on va tout maîtriser, donc on va dire, vous inquiétez pas, c'est pour de faux, donc on se parle et tout. Mais mine de rien, on s'est amusé ensemble, il y a aussi tout ce rôle un peu de remettre du liant de la fiction qui fait que quand tu refais, par exemple, si je reprends ce barrage de l'Isaac, là, qu'on a fictionné, là, quand on fait la réunion d'après, on arrive dans une situation où les gens, ils s'engueulent, ils ne se parlent plus, quoi. Les agriculteurs, les écolos, les élus, ils se parlent plus. Ils se jettent des trucs à la gueule, ils sont tous menacés, la situation est extrêmement violente en fait, hein. Situation territoriale, on arrive. On leur dit, bon bah écoutez, on vous a tous entendus les uns les autres, on va faire un petit jeu ensemble, on va jouer au procès ensemble, on joue au procès ensemble, ils se taisent pendant 2 heures, il y a un silence de mort, tout le monde s'écoute, tout le monde est là, on l'entend tous, l'agriculteur a ses difficultés, on l'entend tous, le machin, enfin il y a tout ce truc là. Donc on a utilisé une fiction prétextuelle pour, en fait, avoir une espèce d'espace de dialogue et de confiance entre nous. Et la réunion d'après, elle a radicalement changé avec la réunion d'avant. Pas tant, alors, sur ce qu'ils peuvent imaginer et vouloir, j'espère, mais aussi sur la qualité même des interactions, quoi. Et moi je crois qu'il y a un vrai travail là-dessus. En tout cas, moi, j'essaie de l'utiliser comme ça. D'ailleurs, toi aussi, un peu, cette idée de faire des fictions qui génèrent de l'attention entre les gens. Et ça, je trouve que c'est un truc intéressant. Très difficile à mesurer, je suis bien d'accord, mais...
Et juste pour rebondir en une phrase, et je vous laisserai poser votre question, c'est carrément, en fait, je voulais dire très difficile à mesurer. Je pense que c'est un risque, justement, de vouloir toujours aller vers de l'évaluation d'impact. Alors attention, hein, on en fait aussi en tant que designer. Mais parfois, je pense qu'il faut... Enfin, il y a des choses qui sont de l'ordre un peu de l'intuition et de l'attention et qui se mesurent hyper difficilement et peut-être plus, en effet, dans des temporalités ou dans un vécu d'une réunion où, en effet, on voit que là, il y a eu un déclic, les gens se sont parlé un peu différemment ou se sont autorisés des choses qui ne s'étaient pas autorisées à penser juste avant.
Est-ce que notre actualité, notre réalité, a fait un jour l'objet d'une fiction ? C'est-à-dire, est-ce que ce qu'on vit aujourd'hui a été fictionné ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
J'aimerais vous répondre non. Non, on a envie de répondre non, évidemment, par rapport à ce qu'on vient de dire avant. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne s'agit pas d'inventer le futur, en fait. Hein. Il s'agit d'inventer des futurs potentiels pour pouvoir se projeter dans un vrai réel futur. Malheureusement, je crois qu'il y a pas mal d'éléments de ce qu'on est en train de vivre qui ont été bien projetés dans des utopies très effrayantes, qui seraient bon de relire, mais c'est un autre sujet.
Je pense que je partage ce qu'il vient de dire. Non, mais honnêtement, je sais pas. J'aurais pas la prétention, moi, de savoir répondre à cette question. Mais peut-être hein, que si y avait eu des designers et des urbanistes bien intentionnés dans les années, que sais-je, 20, ce serait mieux passé que ça, mais je ne sais pas.
Bonsoir. Ce que vous venez de dire, là, ça me fait penser à une expo que j'avais vue. Je crois que c'est l'expo universelle de 1950 On voit pas mal de grandes et belles affiches dans lesquelles il y a le monde du futur avec tout le monde sa machine à laver, tout le monde sa voiture. Donc si, je pense que le monde qu'on vit aujourd'hui, il a été pensé... Enfin, en tout cas, il y a une version du monde qui a été pensée dans ces années-là. Je pense que oui, effectivement. Ensuite, sur ce que vous venez de dire, moi, ça me fait réagir sur deux trucs. Sur la partie, effectivement, pour moi, l'enjeu, un des enjeux du design, c'est effectivement de créer du lien. Et ça, on le voit partout. Dès qu'on décolle un peu avec de la fiction ou avec de la mise en situation ou du jeu ou peu importe, je trouve que ça a vraiment cette valeur. Ensuite, il y a un côté où, comme on fait participer les usagers, je trouve ça hyper intéressant parce qu'on parle avec des problèmes du terrain et donc on atterrit sur des problèmes concrets et pas des espèces de convictions politiques ou des lubies. Donc ça, cet apport-là qui est intéressant. Ensuite, moi, la difficulté que je trouve, c'est toujours le début et la fin. C'est-à-dire le début, comment on enclenche, et à la fin, comment on se dit, ça y est, c'est terminé, quoi. Donc, je vous en prie, si vous avez des... Si vous avez des retours d'expérience.
Ben, en tout cas, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est même, est-ce qu'on s'autorise à se dire que c'est terminé ? En fait, je sais pas. J'ai honnêtement du mal à avoir des convictions sur ce point-là, mais j'aime à me dire quand même qu'on... Certes, on crée des fictions pour que... Ou en tout cas, on met en récit, d'une certaine manière, le réel pour, justement, agir dans le réel. Mais l'idée, c'est vraiment aussi, nous, que notre intervention, elle reste située dans une temporalité. Et moi, j'aime bien me dire que quand je quitte... je sais pas, les soignants avec qui je travaille, ils peuvent continuer un peu l'histoire, etc. Et voire même réutiliser un peu les outils de fiction qu'on leur a donnés pour eux-mêmes s'autoriser à continuer à s'ouvrir à ces imaginaires-là, à aller en chercher d'autres, etc.
Ouais, moi je crois que justement, en tout cas moi dans ma vision de cette éthique de la fiction que j'essaie de me donner, je pense qu'elle a une fin. Je pense que c'est très important de savoir s'arrêter. Si tu sais pas t'arrêter, c'est que tu te mets à confondre le réel et la fiction, et ça c'est pas bon, quoi. Faut faire attention à ça. Surtout qu'il y a vraiment tout un tas de fictions, je le répète, hein, il y a plein de fictions qui nous entourent, de fictions politiques notamment, qui passent leur temps à la fiction des Jeux Olympiques, c'est une fiction qui ne sait pas s'arrêter, quoi. Enfin, tu vois, il y a tout plein de fictions comme ça. La fiction de Paris plage, c'est une fiction qui ne sait pas s'arrêter. Il y a pas de plage à Paris, stop. Enfin, c'est une fiction. C'est-à-dire que moi, j'essaie de faire gaffe avec ça. Je peux donner un exemple. À la fois où ça m'a frappé, ce truc-là, c'était 2021. J'organise un procès de la route. Vous allez dire, je fais que des trucs, des procès. J'organise un procès de la route dans un petit village rue. Je vous raconte ça deux secondes, quand même. Deux secondes. Village rue, on est entre Belfort et Mulhouse, là. Donc, les deux usines PSA, les deux usines Alstom. Donc, c'est un village rue. Et le maire nous invite en nous disant, il faut réfléchir à la reconversion d'un ancien cinéma. Ils avaient un très beau cinéma. Nous, on arrive là-bas, on leur dit, bon, avant de faire ce que vous nous demandez, on va faire une semaine de résidence, puis on va aller discuter avec les gens. Et les gens nous parlent que de la route. Ils nous parlent jamais de l'ancien cinéma, tout ça, machin. Et donc, on retourne voir le maire, on lui dit quand même, il y a un problème, quoi. Enfin, vous avez 15 000 véhicules jour dans un tout petit bled, il y a 6 convois exceptionnels par jour, les maisons, elles tremblent. Enfin, on voulait pas qu'on parle de ça, plutôt, parce que quand même, c'est le sujet que les gens veulent nous parler. Donc, nous, aller faire de la concertation avec des gens qui veulent pas nous parler de votre sujet, mais qui veulent nous parler d'un autre sujet. Et donc, il nous dit, bah oui, mais ça m'embête, votre truc, tout ça, machin. Donc, on lui dit, on va organiser une gigantesque fiction, on va faire un procès de la route. Et puis on va faire tous ensemble le procès de la route et on va lui faire des chefs d'accusation et tout ça machin. Bon bref, on avait mis ça un peu fort là, on avait de l'argent, c'était bien. C'était payé par la région Bourgogne. Et à un moment, on a fait le procès, on a fait un procès verbal, on a été appelé par le préfet qui nous a dit c'est quoi cette histoire, on fait pas le procès des routes, les routes c'est l'État, on fait pas le procès de l'État, tout ça. On lui a dit bah ça tombe bien, ça fait 15 ans qu'on vous demande un arrêté préfectoral pour interdire le tracé des camions dans la ville. Est-ce que ça vous dit pas de le faire, quoi? Donc c'est bien. On a eu un arrêté préfectoral. Donc tu vois, ça, c'est un effet de la fiction sur le réel, ça. Voilà. C'est qu'on a eu un rendez-vous chez le préfet, en fait. Ce qui est très compliqué à voir pour ceux qui voient ce que c'est. Et après, on a fait l'instruction. Je me souviens plus ce qu'on a fait derrière un plan guide. Je sais pas. On avait filé notre fiction. Et à un moment, on s'est dit, je me rappelle très bien de cette réunion. On nous a dit, c'était pas moi, c'est des artistes avec qui je bossais, la PPP. Petit pois princesse. Ils m'ont dit, fais gaffe, là, on est allé chez des gens, on a discuté. Je crois qu'on va trop loin. Je crois qu'il faut s'arrêter, en fait. C'est-à-dire que là, en fait, on est en train de se faire plaisir nous-mêmes. On n'est plus en train de s'intéresser aux gens. Et en fait, moi, à ce moment-là, j'étais vraiment là-dedans. Et c'était marrant parce que je me suis fait, putain, en fait, là, je suis en train de me faire un gros kiff perso, en fait. En fait, ça me fait hyper marrer. J'étais en train, en plus, de mettre en page, je faisais du design pour le coup, je mettais en page les actes du procès de la route, donc je faisais exprès que ça fasse 500 pages, que ce soit en noir et blanc, illisible. Enfin, je me faisais plaisir, en fait. Enfin, d'ailleurs, je l'ai construit, ce document, ça m'a fait marrer, mais en fait, il me disait là, ton document, ça sert plus à rien, quoi. En fait, t'es parti trop loin dans ton délire. Je le dis très simplement, hein, mais. Et en fait, faut revenir à des choses plus simples. Et du coup, c'était marrant, c'était juste avant une réunion publique, et on a fait, bon, bah, en fait, On revient à des choses plus simples, en fait. L'arrêté préfectoral, l'installation d'Amazon, comment on fait tomber un permis de construire d'Amazon, etc., etc., etc. Enfin, on est revenu à des choses un peu plus concrètes. Et c'était bien. Et donc, je pense, enfin, tout ça, toute cette longue histoire pour te dire que oui, je pense qu'il faut savoir arrêter nos fictions au service du public. Enfin, pour ce qu'on est en train de faire, quoi.
Oui, bonsoir. Je voulais juste revenir sur le terme de panne des imaginaires. Vous trouvez qu'on est dans une panne des imaginaires, justement, en ce moment? Et je me demandais si, justement, quand on n'est pas dans le chaos, enfin, en ce moment, c'est quand même un peu le bordel, on peut le dire, au niveau politique, écologique et dans beaucoup de domaines. Est-ce que c'est pas justement là où on est stimulé pour trouver des solutions et où l'imaginaire, au contraire, de tout un chacun, est en effervescence, encore plus que quand on est un peu dans une situation plus calme? Je pensais aux pays d'Amérique latine ou dans des pays où il y a beaucoup de chaos, et finalement, c'est là où il y a des révolutions, la population est très... très dynamique et cherche des solutions. Voilà. Je me posais cette question-là en vous écoutant.
Je ne sais pas si Javier Milei porte des alternatives imaginaires extrêmement fortes en Amérique latine. Non, je trouve que... Je ne sais pas comment dire. Non, c'est toujours bizarre ces grands trucs. Il y a une panne des imaginaires, effectivement. C'est un peu bizarre dit comme ça. Moi, je pense que, je veux dire, on n'est pas assez dans la merde pour être comme ça. C'est-à-dire que pour qu'on soit vraiment dans une créativité des imaginaires complet et tout, il faudrait être beaucoup plus dans la merde, je crois. Et je crois que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est justement un état intermédiaire, peut-être, où que moi je trouve quand même une sacrée panne. C'est-à-dire, enfin, ce que développe le récit de Trump, au-delà des valeurs qu'il y a derrière et tout, il est d'une pauvreté. Enfin, le récit pour rester en France du Front National, c'est un cauchemar narratif quand même. Enfin, je veux dire, c'est d'une simplicité béate. Enfin, il y a rien dans ces trucs-là. Quoi. C'est vraiment extrêmement pauvre. Ça porte très peu d'avenir. Si on le regarde vraiment, essayez de le regarder vraiment comme si vous regardiez vous devez écrire une fiction, vous devez écrire un film sur ce que sera le futur, et vous prenez ce que dit Bardella. Enfin, je veux dire, vous allez être très sec dans votre scénario, votre film, il va être bien nul quand même. Enfin, c'est-à-dire, vous allez nulle part, quoi. C'est plutôt ça dont on parle. Et je crois que malheureusement, j'ai pris Jordan Bardella, mais je crois qu'on peut prendre pas mal d'autres endroits de la société. Les récits, ils sont quand même assez pauvres, les récits qu'on nous propose. Je trouve, hein, personnellement.
Ouais, je peux parler de l'être humain qui réfléchit à tout ça et qui justement se révolte et réfléchit un minimum. Enfin, je pense pas qu'on soit tous des moutons et qu'on. J'ai quand même confiance dans l'être humain à bouger les cartes et justement à développer son imaginaire pour trouver des solutions face à ce qu'on nous propose. Mais peut-être que je me trompe. Hein, vous avez plus peut-être une vision plus réfléchie là-dessus.
Non, bien, en effet, quand on parle de panne des imaginaires, c'est plutôt des... Enfin, en tout cas, quand moi j'y faisais référence, c'est plutôt des auteurs qui ont montré plutôt la panne, comme tu disais, des grands récits, qui étaient le récit du modernisme, etc., tout va, etc. Et ça, je pense qu'on n'est plus si nombreux, et peut-être heureusement, à y croire et à lui donner de la valeur à ce récit-là. Et puis, il y a quelque chose, quand on dit panne des imaginaires, c'est aussi très occidentalo-centré, décidément, j'ai du mal avec les mots. Mais il y a certainement, moi je vous rejoins, des choses à aller chercher, ailleurs qu'en Europe, sur plein de questions différentes. Moi j'ai un collègue qui est colombien. Je vous rassure, notre collègue qui travaille le plus loin. et qui nous racontait là, pas plus tard que cet après-midi, à 14h, les nouveaux systèmes de soins à Bogota, qu'ils ont mis en place et qui revalorisent, par exemple, la place des activités de soins non rémunérées. Donc ils ont construit tout un tas de centres pour valoriser ces personnes-là et leur venir en aide et leur offrir du soutien. Enfin, il y a beaucoup de choses, je pense, à penser. Et puis même, peut-être aussi, puisque là, on est à M28, aussi peut-être du côté des pratiques culturelles et artistiques qui ne sont pas toujours très incluses dans les projets, par exemple, en tout cas, moi, je sais, de design. Mais j'aimerais bien qu'on collabore davantage, justement, peut-être avec des pratiques qui sont plus artistiques, si et seulement si, justement, on est quand même avec cette intention de matérialiser du concret à la fin, parce que moi, mon métier, ça reste un métier de conception où il faut qu'il y ait un service ou un objet ou un espace qui advienne. Mais je pense que c'est pas du tout incompatible.
Ta question, elle me fait juste une réaction. Il faudrait qu'on réfléchisse sur la question de est-ce qu'un imaginaire, il peut être individuel, c'est-à-dire Parce qu'en fait, s'il y a une panne, c'est plutôt justement des récits collectifs, hein, des imaginaires collectifs, publics. C'est pour ça que moi, je te parle de Bardella ou les autres. C'est-à-dire qu'il y ait des gens qui imaginent des futurs incroyables, qu'il y ait beaucoup d'imaginaires et tout ça, ça, j'en doute pas. Mais la question que je me pose plutôt, c'est est-ce que dans notre vie publique, on a ces imaginaires-là très forts et très présents et tout ça, quoi. Et moi, je trouve que je fais pas mal d'enquêtes, moi, comme toi, auprès de populations. Je fais, tu vois, des trucs un peu. J'en ai fait récemment dans le tram à Montpellier tôt le matin, là. Et c'était assez marquant. Surtout que dans le tram, c'était pratique parce qu'on avait vite 20 minutes, une demi-heure à discuter avec les gens, parce que il est long ce tram. Quand tu pars de la Mosson et que tu vas à la centre-ville, là, ça dure des plombes. Et du coup, j'étais souvent très longtemps avec les gens. Et c'est fou, quoi. Le premier quart d'heure, il est dur, quoi. Le premier quart d'heure de discussion, il est vraiment dur. Là, tu t'y confrontes à la panne des imaginaires, quoi. Tu vois vraiment que publiquement, c'est dur, quoi. D'imaginer un futur, c'est sec de chez sec, quoi. Il faut vraiment aller creuser. Puis tu commences à avoir des petites choses qui arrivent et tout ça, quoi. Et ça, à mon avis, ça parle pas tant du fait que les gens sont bêtes ou pas d'imaginaire. C'est pas du tout ce que je veux dire, hein, que ce soit bien clair. Hein. Ça parle qu'ils ont pas d'imaginaire collectif clair à attraper comme ça ou pour ce voilà.
Moi, je voulais rajouter, il y a quelque chose qui m'a marqué au tout début, et je vois ça un peu en trame aussi, c'est de penser la fiction comme une capacité, en fait, et non pas comme quelque chose qu'on fabrique. C'est pas un objet. Je trouvais ça intéressant. Et que finalement, cette notion de panne des imaginaires, c'est pas d'avoir des objets d'imaginaire, mais c'est de pouvoir justement le déployer, cette capacité, et quelles sont les conditions pour qu'on puisse tous déployer ces capacités-là. Et donc là, ce que j'entends, c'est que en fait, il y a des espaces-temps pour ça, mais qui peuvent être partout, qui peuvent être dans le tram, qui peuvent être... comment créer les conditions pour déployer cette capacité fictionnelle. Et est-ce que tout un chacun peut faire ça? Enfin, voilà, moi, j'ai une question. Comment ça se propage, en fait?
Moi, je suis persuadée qu'on peut tous le faire, parce qu'a priori, c'est ce qu'on a tous appris quand on était enfant. Hein. En réalité, c'est un mode d'apprentissage aussi, c'est ce que tu disais avec le « on dirait que », mais on est complètement là-dedans. Après, les déployer et faire fictionner ensemble, je ne sais pas si ça se dit là, peut-être un gros mot, mais tout un tas de publics qui sont justement parfois dans des environnements où ils n'ont vraiment pas envie de réfléchir. Là, je pense que c'est une expertise aussi, et c'est pour ça qu'on est quand même des professionnels. Mais c'est marrant parce qu'on en avait discuté justement avec Pascal où je disais, est-ce que c'est toujours bien de faire de la fiction aussi. Moi, j'ai eu l'occasion d'accompagner des projets où on vient avec l'idée de améliorer l'expérience de telle personne, etc. On a envie de faire tout plein de choses géniales, etc. Et on fait notre phase d'enquête terrain et on se rend compte que on a toute une équipe qui est au bord de l'épuisement professionnel, mais vraiment dans un état qui était inquiétant. Et du coup, là, notre travail, ça a été aussi de dire aux commanditaires, là, on va prendre un petit mouvement de recul, on va pas se lancer dans des ateliers de co-créativité, etc. En fait, on va déjà offrir des preuves de soins, quoi, réparer un peu la situation, et ça peut être très concret, quoi. Donc oui, en tout cas, ça se réfléchit la manière de faire ça tous ensemble, mais je suis persuadée qu'on a tous la capacité. Il faut juste, c'est comme la créativité, quoi. Il faut l'entraîner, il faut la nourrir, faut aussi aller chercher d'autres imaginaires.
Ouais, en fait, t'as raison, c'est une panne plus de l'imagination que de l'imaginaire, en fait. Hein. On devrait pas dire une panne des imaginaires, on devrait dire une panne de l'imagination, une panne de la légitimité à imaginer collectivement dans des registres professionnels et publics, quoi. Enfin, si je Parce qu'en fait, ce que tu dis sur l'enfance, ça, c'est un truc de fou. Alors ça, moi, je le dis souvent sur la sensibilité, mais c'est exactement vrai. C'est pareil sur l'imagination. C'est peut-être un peu moins vrai sur l'imagination. C'est extrêmement vrai sur la sensibilité. C'est-à-dire, on apprend par la sensibilité quand on est petit, énormément, énormément. Et dès que faut être professionnel, faut être sérieux, faut plus être sensible, quoi. C'est vraiment un truc qui est d'une puissance, mais monumentale. En fait, faut vraiment pas négliger les effets de sérieux qui jouent dans nos sociétés, qui sont extrêmement puissants. Je veux pas faire une fixette sur Bardella, mais regardez comment Bardella utilise la fiction de sérieux en permanence. C'est vraiment un truc absolument incroyable. Il n'utilise d'ailleurs plus que ça quasiment comme outil de communication. C'est-à-dire, il faut être sérieux. Et qu'est-ce que c'est que d'être sérieux? D'être sérieux, c'est de parler du peuple, c'est de parler des choses proches, c'est surtout pas d'imaginer et surtout pas d'être sensible. Donc c'est vraiment des caractéristiques fortes. Et du coup, la question, c'est pas tant est-ce qu'on est capable d'imaginer, vous avez raison, c'est est-ce que légitimement on a le droit de le faire dans des contextes professionnels, des contextes de politique publique, etc. etc. Si c'est bon de fictionner, du coup, je ne suis pas du tout rediscuté, je suis parti sur quelque chose.
Oui, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a comme une interdiction. Alors, est-ce que c'est une interdiction à la fiction ? Je trouve, en tout cas, que dans le propos politique, depuis un certain temps, l'idée d'arriver à parler d'un monde après qui serait mieux que celui dans lequel on est, ça semble une impossibilité. C'est-à-dire qu'en fait, on aujourd'hui, et c'est à mon avis ce qui manque, enfin, en tout cas moi c'est ce qui me manque c'est d'avoir quelqu'un qui parle d'un projet de vivre ensemble à une échelle large et dans lequel on pourrait se dire on va aller ensemble dans ce projet et on sera tous mieux que ce que l'on est aujourd'hui. Et alors ça, peut-être qu'on appelle ça une fiction, mais pendant longtemps on appelait ça un projet politique ou un projet de société. Et alors si on touche à un endroit qui est compliqué, c'est-à-dire que peut-être il faut effectivement se redonner le droit à la fiction pour penser un monde de demain meilleur que ce qu'il est aujourd'hui.
Moi, je dis une chose. Je suis tout à fait d'accord avec ça. En ce moment, juste, je vous partage que je travaille à Lille. Je travaille sur la mise en récit du PLU de Lille. C'est le marché public, hein, mise en récit du PLU de Lille. Non, de la stratégie d'urbanisme de la métropole lilloise. Et j'ai été extrêmement frappé, un, par le fait que quand tu écoutes les discours de Pierre Mauroy d'il y a pas si longtemps que ça, 20 ans, 30 ans, lui, il parle énormément du futur. Alors, pas un futur qui est le mien, mais en tout cas, il parle énormément du futur, en fait. Il fait énormément ça. Mais parce que aussi, c'est un futur très clair, hein. Donc c'est facile, entre guillemets. Hein. Donc il le fait énormément. Et que quand moi je viens dire à l'élu, à l'aménagement, qui est quelqu'un de très intelligent et que je respecte beaucoup, je veux surtout pas dire du mal de lui, que je viens de lui dire, écoute, moi je t'ai écrit un récit de l'imaginaire, c'est ça qu'il faut que tu portes, c'est ça, je te l'ai écrit, on l'a bossé, il est trop bien, mon récit, j'étais trop fier de mon récit, je me suis pris une baffe, il m'a dit, mais je peux pas dire ça, quoi. Il m'a dit, c'est impossible. C'est inacceptable politiquement, je vais m'effondrer si je raconte ça, quoi. Si je raconte comment sera demain, tout ça, machin, je veux surtout pas parler de ça, beaucoup plus petit, tu redescends complètement, tu parles de demain, tu parles des projets en cours, hein. tu me parles pas de comment ce sera. J'avais pas fait le foufou, hein. J'avais parlé de comment, tu vois, vers où on allait, quoi. Ils sont vraiment dans une espèce d'auto-censure et d'auto-contrôle de la fonction narrative, en tout cas, dans le récit politique qui est hyper fort. Donc c'est bien un truc sociétal, quoi.
Oui, complètement. Et puis peut-être juste pour terminer, pardon. L'idée, c'est, enfin, en tout cas, si je me place en tant que praticienne du design, c'est pas tant de réouvrir la voie au grand récit ou au projet politique, mais c'est aussi de nous, ce qu'on ferait, c'est que limite, on dirait, bon, bah, autorisons-nous à avoir ce discours-là, mais surtout autorisons-nous à penser à comment on en est arrivé là. Et donc à faire rétroactivement, parlons, peut-être l'ordre, la chronologie des événements. D'ailleurs, je crois que c'est ce qu'on avait fait pour Bercy, justement. Ils étaient allés chercher des imaginaires et ils s'étaient dit, OK, maintenant on fait la chronologie année par année de tout ce qui s'est passé pour qu'on arrive à ce futur désirable ou non, d'ailleurs. Donc ça, ça peut être un exercice intéressant à faire, ouais, carrément.
Merci.
Voilà, je sais pas. Merci en tout cas pour.
Merci de votre attention.
Ouais, et puis pour la discussion. C'était hyper intéressant et ça ouvre encore pas mal de questions dont on aura peut-être l'occasion de discuter.
Les rendez-vous M28. Un projet réalisé en coproduction avec les radios du CRLO.